Studio Tamani, voici nos informations en français.
Un pacte de non-agression a été signé ce samedi entre les chasseurs d'Onso et communauté Peul de Nyono. Les autorités de la transition de leur côté se sont engagées à désarmer tous les détenteurs illégaux des armes. C'était au terme d'un forum sur la réconciliation intercommunautaire. Le syndicat autonome des administrateurs civils entame une grève illimitée à partir de ce lundi 9 novembre 2020. Les négociations de ce vendredi entre le syndicat et les autorités n'ont pas permis d'éviter cet arrêt de travail. Le festival Ilari de Kabara, une localité située près de Tombouctou, s'est tenu ce week-end. Organisé par le jeune de la localité, l'événement a pour objectif de révéler au monde les atouts culturels et historiques et économiques de la localité. Voilà pour le sommaire de cette édition matinale qui vous sera présentée par Miranda Kilomaïga, la maison de Mamadou Ouattara. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Le forum de Nyono sur la réconciliation intercommunautaire a pris fin ce samedi 7 novembre 2020. Un pacte de non-agression a été signé entre les chasseurs d'Onso et la communauté Peul de la région de Ségou. Cet accord de paix a été signé sous l'égide de quatre ministres et plusieurs centaines de personnes, dont des chefs religieux et coutumiers. Les conclusions de cette rencontre prônent le dialogue, la paix et la cohésion sociale entre toutes les communautés des 12 communes du cercle de Nyono. Reportage de notre envoyé spécial à Nyono, Mohamed Ali Agaleida.
Pour les représentants de la Fédération locale des chasseurs d'Onso, il s'agit notamment de l'arrêt de toute forme de violence entre les deux communautés, de l'ouverture des foires hebdomadaires, la mise en place d'un comité de pilotage pour prévenir et gérer d'éventuels conflits et l'ouverture d'un cadre de dialogue et de concertation entre les communautés. Mamadou Boudjara, secrétaire général de la Fédération des chasseurs du cercle de Nyono.
Ce terrain d'entente, on a fait des engagements. Aucun peul ne touche désormais à un chasseur, qu'un chasseur ne touche encore à un peul. Et nous prions tout le monde de nous aider à faire que cet engagement puisse être respecté. Toute violation de cet engagement, les dispositions qui en résultent sont déjà énoncées entre nous. Les peuls le savent, nous chasseurs aussi on le sait.
Du côté de la communauté peul, ses représentants estiment que ce pacte va permettre la libre circulation des personnes et de leurs biens et mettre fin au cycle de violence, d'assassinat et d'enlèvement dans les 12 communes du cercle de Nyono. Pour ce leader peul, la signature de ce document est un grand pas dans la résolution des conflits entre les peuls et les chasseurs dans le centre du pays. Hambarka Yaranangore est un des représentants de la communauté peul de Nyono.
Nous sommes les plus contents. Celui qui veut aller au champ, peut aller au champ. Celui qui veut aller pâturer ses animaux, peut pâturer ses animaux. Celui qui veut alors fréquenter les marchés, peut aller. Et celui même qui veut vendre son lait, peut le faire. Il faut sincèrement trouver une solution définitive à ces problèmes.
La signature de ce document a été également saluée par les autorités de la transition. Pour le ministre de l'administration territoriale et des collectivités locales, cet accord sera le début d'un retour effectif de la paix et de la cohésion sociale entre les communautés du centre. La nécessité d'aller à la paix et de privilégier le dialogue comme seul moyen de résolution des différends a mené à la signature de cet accord de paix.
Nous nous réjouissons et nous avons pris acte de la décision unilatérale d'elle-même de ces deux communautés de signer un pacte pour arrêter l'escalade de la violence et de promouvoir l'entente et le dialogue entre les deux communautés.
Cette rencontre a mobilisé des centaines de personnes, dont quatre ministres et des leaders religieux et coutumiers. Elle s'est tenue dans un contexte sécuritaire tendu au centre du pays. Mohamed Ali Agaleida, depuis Nyono, pour Studio Tamani.
Selon le rapporteur général de la rencontre, cet accord signé entre les communautés comprend 6 recommandations. Il s'agit entre autres de l'arrêt de toute forme de violence, de l'ouverture d'un cadre de dialogue et de concertation entre les communautés et la libre circulation des personnes et leurs biens. Ousmane Togo, rapporteur général de la rencontre, au micro de Mohamed Ali Agaleida.
La première recommandation, c'est d'assurer le désarmement de tous les détenteurs illégaux d'armes. 2. Assurer la protection des personnes et de leurs biens. 3. Multiplier les cadres de concertation intercommunautaire dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations issues de la présente rencontre. 4. Assurer l'implication du Haut Conseil islamique du Mali dans le cadre de la résolution de la crise qui sévit dans le cercle de Nyono. 5. Inviter l'ensemble des communautés dans le cercle à créer les conditions de la paix et de l'entente. 6. Mettre en place un mécanisme opérationnel de suivi des recommandations.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. La jeunesse de l'association Finata Wassenou de Cercle de Bankassa a dénoncé ce week-end lors d'une conférence de presse les présumées exactions commises par l'armée malienne sur des populations civiles dans le village de Libé, région de Mopti. Selon les responsables de ce regroupement, les autorités de la transition doivent mettre fin aux tueries extrajudiciaires des innocents et traduire les auteurs devant la justice. Drissa Sangaré, président de la jeunesse de l'association Finata Wassenou, au micro de Lalaïcha Welet Imfa.
C'est suite aux exactions commises au centre, principalement dans le centre de Bankassa. Exactions commises cette fois-ci par l'armée, principalement les populations peules, sous prétexte qu'elles sont des djihadistes. Vraiment, nous voulons passer la bonne information pour que nos autorités nationales fassent la distinction entre la lutte contre le terrorisme et la lutte contre les communautés. Et nous voulons que entre l'armée et la population, que tout se passe bien, que l'armée soit là pour tout le monde. Et nous voulons que l'armée évite l'amalgame, la stigmatisation. Imaginez à Libé, l'armée est partie sans discernement a tiré sur 24 personnes qu'elles présument être des djihadistes. Pourtant, elles n'ont trouvé aucune arme avec une seule personne. Donc c'est cela que nous dénonçons. Quand les deux font des crimes, nous dénonçons. Quand les djihadistes font des crimes, nous dénonçons. Quand l'armée également fait des crimes, il faut dénoncer. Et porter plainte également sur le plan national et même international.
Les négociations de ce vendredi entre le syndicat autonome des administrateurs civils et le gouvernement n'ont pas permis la levée du mot d'ordre de grève illimité. Sur les 11 points de revendication, seulement deux ont fait l'objet d'un accord partiel. Par conséquent, le syndicat entame une grève illimitée à partir de ce lundi 9 novembre 2020. Pour plus de détails, écoutons Ousmane Christian Diarra, secrétaire général du syndicat autonome des administrateurs civils et le Jean-Pierre Maliki Diallo.
Les points de blocage sont surtout d'ordre financier. Les quatre premiers points qui concernent les avantages réclamés par le corps des administrateurs civils, le corps des membres du corps préfectoral et les représentants de l'État, tous ces quatre points se sont conclus par un échec. Ainsi que la prise en charge des salaires des travailleurs de collectivités territoriales par l'État. Les deux points qui ont fait l'objet d'accords partiels concernent notamment la sécurisation des représentants de l'État. Ils disent qu'ils peuvent assurer une sécurité partielle, mais quant à la garde statique, c'est-à-dire le plus grand nombre d'agents qu'il faut par les représentants de l'État, ils s'en remettent à une disposition qui ne nous a pas satisfait. Essentiellement, ça concerne donc les deux points.
À Kabara, une localité située près de Tombouctou, s'est tenu ce week-end le festival Ilari, organisé par le jeune de la localité. L'événement a pour objectif de révéler au monde les atouts culturels, historiques et économiques de Kabara. Le festival Ilari a été aussi l'occasion, selon les organisateurs, de rappeler les valeurs de cohésion sociale et de vivre ensemble qui ont caractérisé la localité de Kabara. Reportage de notre correspondant à Tombouctou, Boubacar Guité.
Des conférences débats sur la cohésion sociale et le vivre ensemble, des prestations artistiques et culturelles, des visites des sites touristiques, mais aussi une foire d'exposition ont été entre autres les temps forts de ce festival à Kabara. Draman Sissi, coordinateur du festival, revient sur l'objectif de cette première édition du festival Ilari.
Tombouctou a son histoire, mais Kabara aussi a son histoire qui est un peu cachée, qui est méconnue même des Kabara. Donc c'est pour faire sortir cette histoire de Kabara et aussi sur l'aspect économique, toutes les rizières sont à Kabara. Terre Kabara est un cultivateur de pommes de terre par excellence.
Ce festival est important pour la cité de 333 ans. Une ville mise à rude épreuve par l'insécurité, affirme Aboubakar Nsissé, maire de la commune urbaine de Tombouctou.
Ce festival va permettre l'animation et ensuite il y a aussi des activités qui vont régénérer beaucoup de ressources pour les populations et pour la commune d'une manière générale parce qu'il y a les stands, il y aura, n'est-ce pas, des achats et c'est une manière de relancer les activités commerciales au niveau de la commune urbaine de Tombouctou.
Pour cette première édition, les organisateurs n'ont pas lésiné sur le moyen pour sécuriser l'événement. Draman Sissé, coordinateur du festival.
Les forces armées maliennes qui sont à Tombouctou se sont mobilisées à nous accompagner. Nous avons une délégation mixte des forces armées qui est là et qui va faire les trois jours avec nous. Il y a des gendarmes, la police, les FAMA, la protection civile, ils sont tous là.
Il faut signaler que pour cette première édition, les participants sont venus de plusieurs localités de la région, depuis Tombouctou, Boubacar Guité. Pour le studio Tamani.
Situation de la COVID-19 à la date du dimanche 8 novembre 2020. Les autorités sanitaires du pays ont enregistré 30 nouveaux cas positifs de COVID-19, dont un agent de l'ORTM. Cependant, 6 patients sont déclarés guéris et 0 décès enregistrés. La situation cumulée à ce jour est de 3706 cas confirmés, dont 2898 guérisons et 137 décès. Place maintenant notre rubrique Acti-COVID, présentée par Mariam Koulibaly.
Si yo te maní. Au plaisir de vous retrouver pour Actu Covid. Aujourd'hui, on fait le zoom sur le centre d'appel, le numéro vert 36061, qui reçoit moins d'appels en ce moment. C'est du moins ce que déclarent les responsables de ces centres. Selon eux, cela s'explique par la baisse de vigilance des populations par rapport à la pandémie de Covid-19. Toutefois, les responsables du centre exhortent celle-ci à s'informer sur la maladie en appelant le numéro vert. Reportage de Moussa Malé Sissoko avec la voix de Khalifa Goïta.
Cette cellule du ministère de la Santé est logée à l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale du Mali. Selon le directeur, la baisse du nombre de cas positifs à la Covid-19 a poussé les populations à relâcher les mesures barrières. Ousmane Fomba, directeur de l'Agence nationale de télésanté et d'informatique médicale du Mali.
Il y a de cela 3 mois, on recevait plus de 20 000 appels par jour, mais aujourd'hui, les appels ne sont pas comme auparavant. Mais cela n'est pas un moyen de baisser les bras. Nous devons rester très vigilants. Le monde est interconnecté.
Près d'une soixantaine d'agents travaillent dans ce centre 24 heures sur 24, nous confie le coordinateur Germain Momo. Il affirme que les capacités opérationnelles du centre ont été renforcées de 30 postes aujourd'hui.
Aujourd'hui, nous, la grosse pression est passée. On arrive à traiter entre 1500 et 2000 par jour. Malgré la distance, de mars à aujourd'hui, on est encore à 2000 appels par jour. Et l'effectif n'a presque pas changé. C'est des gens qui appellent pour la maladie.
Le centre d'appel a pour mission d'information la sensibilisation et l'orientation des cas suspects vers les centres de prise en charge. Il a été créé en fin 2019.
La Chambre régionale de commerce de Gao a offert la semaine dernière à la région de Gao et de Kidal des masques de protection. La région de Gao a reçu 300 000 masques et celle de Kidal 60 000 masques. Les masques ont été remis au gouverneur des deux régions. Selon les responsables de la Chambre de commerce régionale de Gao, ce don vise à aider les autorités régionales dans la lutte contre le coronavirus. Suivons maintenant la question d'auditeur du jour. Elle est répondue par professeur Akori Agkinan, coordinateur national de la cellule de lutte contre le coronavirus au Mali.
Professeur, bonjour. On assiste à une deuxième vague de contamination à la maladie à coronavirus en Europe. Est-ce que cela aura un impact sur le Mali?
Bien sûr, ça peut avoir un impact. Les frontières sont ouvertes par la voie aérienne, etc. Et tout. Donc, c'est pourquoi nous prenons les mesures les plus adéquates possibles pour protéger nos populations, parce que nous respectons le règlement sanitaire international.
Ainsi prend fin Actu Covid d'aujourd'hui. À demain. Vous pouvez réécouter ce programme à tout moment sur notre page Facebook ou rendez-vous sur la plateforme via en composant le 37321, options 3 et 4.
Studio Tamani.
Studio Tamani, financé par les gouvernements de la Suède, du Danemark, de la Suisse et par l'Union européenne.
Un tour en région avant de refermer cette édition. Un homme armé d'une machette a agressé ce vendredi un gendarme à Niafunke. Selon les autorités locales, le gendarme a été blessé à la tête et l'assaillant a été arrêté par un autre gendarme avec l'appui de la population. Une enquête a été ouverte. La commune rurale de Kokri a reçu ce vendredi 6 novembre 2020 une somme de 20 millions de francs CFA. Ce don de l'ONG Agir en partenariat avec le projet de réhabilitation du fleuve Niger vise à soutenir les activités génératrices de revenus des populations riveraines. Selon le maire, le bénéficiaire de ce geste financier sont des initiateurs de micro-programmes, de micro-projets dans le domaine du maraîchage. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web www.studiotamani.org. C'est sur ce thème que se prend fin cette édition présentée par Imirana Kilo Maïga. Merci de l'avoir suivi.